C'est vrai, on va se rappeler ce lien, on se l'est rappelé jusqu'à présent dans les chants, dans les témoignages de personnes qui s'associent à cette église. On va se le rappeler au travers de la scène, on se le rappellera tout à l'heure au travers du repas, de ce qu'on vivra aussi cet après-midi. Notre lien, nous l'avons en Christ. En Christ. Et mon exhortation ce matin, c'est, s'il vous plaît, ne la vivons pas comme Corinthe, comme les Corinthiens. Ne la vivons pas. Et pourtant, prenons garde, comme Michel nous l'avait partagé il y a quelques semaines, prenons garde de tomber. On le sait, on le découvre, hein, Corinthe, une église où il y a bien des problèmes, bien des désordres. Et je trouve, la Bible, elle est remplie de réalisme. C'est pas juste bisounours, tout est beau, tout est joli, non. Elle nous parle de nos vies, en fait. Elle nous parle de nos églises. Elle nous parle de nos situations. Et Paul, dans cette belle, très belle lettre, nous exhorte à ne pas jeter le déshonneur sur Dieu, à réfléchir à notre conduite. Ne soyez pas présomptueux de nous croire bien supérieurs, bien mieux que Corinthe. Alors, on est au chapitre 11, hein, qu'on a débuté la semaine dernière, et Paul parle justement, dans cette portion de la lettre, de ce désordre qui se vit lorsqu'on est ensemble, rassemblés. Semaine dernière, c'était autour de... Paul mettait l'accent sur cette confusion autour des hommes et des femmes, entre les maris et les épouses, et que, en fait, ça jetait un déshonneur au point que c'était peut-être même pire que les autres cultes païens, idolâtres, qu'il y avait autour à Corinthe. Et Paul, dans le texte de ce matin, on va voir un des textes peut-être qu'on connaît le plus de Corinthiens, de cette lettre, Paul va parler d'un autre désordre lié à un repas. Des choses qui se vivent autour d'un repas. On est au chapitre 11. Comment gâcher un repas? Comment gâcher un dîner qu'on peut avoir avec des amis? Comment on peut gâcher notre repas fraternel qu'on aura tout à l'heure? Il suffit d'arriver avant tout le monde, de vous servir, de manger toute la nourriture, de vider votre pinot gris, et ça devrait le faire, vous allez gâcher tout. Et en fait, c'est ce qui se passe dans cette lettre de Corinthiens, et j'aimerais d'abord prier avant de la lire. Seigneur, merci pour, c'est vrai, toutes ces sources d'encouragement que tu nous as déjà données dans ce temps qu'on vit ensemble. C'est vrai, il y a de belles choses qui te mettent à l'honneur, qui nous rappellent ce que tu fais dans nos vies et du besoin des uns des autres, de la richesse de ta parole, de la reconnaissance d'avoir des parents qui ont grandi dans cette soumission à Christ. Et en même temps, on réalise aussi qu'il y a bien des domaines dans nos vies où on n'est pas en règle, où on se cherche, où on se questionne, où on se fait du mal, où on est parfois dans la misère, où on, dans les questions, dans les doutes. Et on jette aussi parfois, bien souvent aussi, le déshonneur sur cette vie que nous avons avec toi en Christ. Alors je prie que ce que tu veux nous rappeler encore ce matin puisse nous encourager à continuellement lever les yeux vers toi et à nous souvenir de la grâce que tu nous fais de te connaître et de nous savoir pleinement acceptés, pleinement libérés, pleinement réconciliés. Seigneur, merci pour cette possibilité de le faire en Église, cette possibilité de nous réjouir ensemble de l'œuvre de Christ. Amen. C'est Paul qui parle à cette Église, bien sûr, en faisant la remarque suivante. Je ne peux pas vous féliciter, car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Il faut bien en effet qu'il y ait aussi des divisions parmi vous afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter? Sur ce point, je ne vous félicite pas. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai chez vous. Amen. Quel triste constat. D'accord. C'est grave quand un rassemblement de chrétiens les rend plus mauvais. C'est ce qui dit le texte, hein. L'ironie, elle est, c'est accablant. Accablant. Dieu nous appelle et la parole, elle est remplie d'encouragement parce qu'on est là normalement pour nous exhorter, pour nous encourager, pour nous aider à lever les yeux vers le Seigneur, pour nous inciter à nous, à avoir un plus grand amour pour Dieu et pour les autres. Alors comment est-il possible que lorsqu'on se rassemble, on puisse aussi se détruire? Pas étonnant, peut-être qu'une église n'attire plus les personnes. Pourquoi aller dans cette église si c'est pour se retrouver pire? C'est ce que dit le texte, hein, littéralement, pour se trouver pire que après y être allé. Et Paul nous dit qu'il a une réponse. Qu'il faut se rappeler l'œuvre de Christ. Cette église prend un repas, et c'est vrai, le repas, ça fait partie hein, de nos vies, ça fait partie aussi de la vie d'église. Et dans beaucoup de textes de l'Ancien Testament, c'est aussi autour d'un repas qu'on vivait le repas du Seigneur, qu'on vivait la Sainte Cène. Alors nous, on le fait à part. On aura l'occasion d'y revenir. Je crois que pour chaque culture, le fait de manger ensemble, c'est fort. Ce qui se passe autour d'une table. Partager un repas entre collègues. On aime s'accueillir. On aime recevoir autour d'un repas. Autour d'un apéro. On aime, avec les beaux jours, préparer. Je sais que plusieurs aiment un barbecue. Il y a du lien qui se tisse autour des tables. On partage, on discute de tout et de rien. Et le thème du repas, on le sait, dans la Bible est riche, riche. Manger, boire, c'est nos besoins naturels et qu'on peut partager avec les autres. Le vin, la nourriture grasse, le lait, l'abondance. Dès la création, les fêtes sont remplies dans la Bible. Il y a plein de fêtes qui se passent autour d'un repas. L'hospitalité, je le disais tout à l'heure, la joie. Mais il y a aussi des moments plus difficiles, hein, le peuple d'Israël qui a ruminé parce qu'il n'y avait pas assez dans la casserole quand ils étaient dans le désert. On sait que, avec Jésus, il y a plein d'épisodes qui se sont passés autour d'un repas. Plein d'épisodes. Il va manger chez Zachée. Il a mangé chez un riche. Il a mangé avec les ripoux, avec les gens peu fréquentables de l'époque. On peut penser à la multiplication des pains. C'est lors d'un repas que Marie a répandu du parfum sur les pieds de Jésus. Ça se passe autour d'un repas. C'est un repas que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. C'est un repas que Jésus à partager son dernier repas avant sa mise à mort. Il y a quelque chose qui se passe autour d'un repas. Mais ici, à Corinthe, il se passe quelque chose autour d'un repas qui n'est clairement pas glorieux. Pas glorieux du tout. Je ne peux pas vous féliciter. Bien au contraire, nous dit Paul au verset 22. Il n'y a rien d'édifiant, il n'y a rien de fraternel. J'ai donné pour titre « S'assembler unis dans l'Évangile ». Parce qu'on voit autour de ce texte, Paul va beaucoup mettre l'accent sur le repas du Seigneur. Et je résumerai voilà l'enseignement de Paul dans ce passage. « En commémorant et en s'examinant par le repas du Seigneur, l'Église rassemblée honore Dieu et les autres avec et par l'Évangile. » On est en train d'honorer Dieu lorsqu'on partage ce repas de façon comme le Seigneur le veut, avec les autres, et en se rappelant l'Évangile. Alors je vous propose de le voir avec trois exhortations, et avant de terminer, à nous montrer six orientations de ce qui se passe lorsqu'on est uni en l'Église. On est rassemblés pour honorer Dieu ensemble. On est rassemblés pour honorer Dieu ensemble. Et c'est les premiers éléments qu'on voit dans cette portion de texte. On est ensemble. On est ensemble à partager un repas. On est ensemble à vouloir célébrer le repas du Seigneur, la Sainte Cène. Et cela devrait être, Paul dit, ça devrait être un temps qui vous édifie, qui vous encourage, qui montre une unité incroyable. Et on l'a déjà entendu. C'est un acte d'église. C'est sérieux de ce qui se passe quand on est ensemble. Mais pour l'église de Corinthe, ils se retrouvent, oui, mais il n'y a rien de glorieux. Et Paul est dur dans ce qu'il constate. Vous êtes pire. Verset 17. Je constate qu'il y a de la division entre vous. Ou des controverses, selon certaines traductions. Verset 21, c'est du chacun pour soi. Verset 22, vous démontrez votre mépris pour l'église de Dieu. Voilà ce qui se passe quand ils se rassemblent. C'est dur. Vous faites honte aux autres qui sont vos frères et sœurs. Verset 22. Le constat est sans appel. Sommes-nous meilleurs ? Sommes-nous meilleurs ? Corinthe est rassemblée, mais rien d'édifiant, rien d'honorable devant Dieu, rien qui n'édifie l'autre. C'est pas sérieux, alors que cela devrait l'être. Votre rassemblement autour du repas du Seigneur devrait être un moment vécu par l'Église ensemble qui édifie, qui illustre l'unité que vous avez autour de Jésus-Christ. On se réjouit de Jésus-Christ. C'est ce qui nous rassemble. Je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui se passent autour d'un repas. Un repas de famille. Il y a cette attente, on se retrouve. Tout est mis en place, déco, entrée délicate, plat copieux, fromage, dessert. Tout est préparé avec soin. Ça symbolise l'unité qu'on va avoir, la convivialité. Et je crois qu'on peut tous le dire, c'est aussi parfois et souvent autour de ces mêmes repas préparés avec soin qu'il y a source de conflits, source de non-dits. C'est à table que certains membres de famille vont prendre plus de place que d'autres. Ils vont parler plus fort, ils vont monopoliser les discussions. D'autres se sentiront négligés, en bout de table, personne ne leur adresse la parole. Parfois, les comportements, on voit qu'il y a de la rancœur, des choses qui se sont passées, qu'on n'a pas réglées avec l'autre. Parfois, les conversations glissent, on le sait, sur des sujets sensibles. Allez, si je sais sur quel sujet j'ai envie de faire la polémique en famille, je vais sortir la politique ou n'importe. On a tous des sujets où on sait que si on dit ce sujet-là, on est sûr d'avoir le frangin, la tante ou les parents derrière le dos parce que voilà, on va exprimer fort. Et ici, c'est le cas. Certains ont mangé avant que d'autres ne puissent le faire. Ils se sont servis, en tout cas, une grande portion de nourriture sans tenir compte des autres. Ils ont exclu un repas qui est censé être un moment d'unité, de partage, peut vite devenir, sans qu'on y prenne garde, un lieu de division, un lieu de hiérarchie où il y a des tensions qui vont apparaître. Et c'est ce qui se passe ici, dans l'église de Corinthe. Un terrain de division. Paul souligne qu'autour de ce repas se vive l'unité, se vive l'amour, se vive l'humilité, l'unité en Christ devient un lieu de compétition, d'égoïsme et de comparaison et d'injustice. Les riches se servent abondamment et mangent avant que les pauvres n'arrivent. C'est ce que le texte dit, c'est ce que Paul dit. Laissant ceux qui n'ont pas assez se retrouver dans une situation humiliante. c'est du chacun pour soi. Du chacun pour soi. C'est le, on pourrait dire en caricature, c'est le repas tiré du sac qu'on garde pour soi, sans partager, et je vide ma bouteille seul, et à point, c'est tout. C'est ça. Et Paul est en train de leur montrer qu'ils méprisent profondément ce qu'ils sont en Christ, les vérités qui sont en Christ. Mais où est votre unité? Votre rassemblement devrait être un moment d'unité, de convivialité, de respect, d'encouragement spirituel, au lieu de comportement égoïste. Et c'est vrai qu'avec cette lettre de Corinthe, on a vu cette division depuis le début, depuis les premières lettres de Paul. Paul, il a montré toutes les fois où ils se chamaillaient, où ils étaient divisés, où ils démontraient qu'en fait, l'un voulait parler plus haut que l'autre. Alors rien de surprenant arrivé à ce stade-là de la lettre, sur ce constat-là. Et Paul nous exhorte, on se rassemble pour honorer Dieu ensemble, ensemble. On est dans un acte d'église, on pourrait dire, rassemblée, le repas du Seigneur, accompli pour toute l'église comme un seul corps. C'est l'ensemble de l'église qui est appelée à vivre ce repas du Seigneur. C'est pas quelques individus, c'est pas en famille, c'est pas des petits groupes, les riches ici, les pauvres ici, non, c'est ensemble. C'est pas un moment privé entre amis qu'on doit célébrer le repas du Seigneur, non, c'est ensemble. Au point où Paul nous dit, si vous n'êtes pas arrivé à vous maîtriser, mangez d'abord chez vous. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se vivent chez vous, et il y a des choses qui se vivent ensemble. On est ici pour célébrer ensemble notre Seigneur Jésus-Christ. Faire manger beaucoup de monde, c'est pas évident, on le sait. On le disait tout à l'heure, chez soi, en famille, en petit comité, ça peut déjà être compliqué. Ceux qui ont des enfants en bas âge le savent aussi. Alors imaginez, c'est vrai, dans l'église, on peut leur trouver des excuses. C'est pas facile au niveau de l'unité. On a des différences culturelles, même autour d'un repas. On a des différences personnelles. On a des différences sur la manière dont il faut s'organiser pour manger ensemble. La manière dont il faut mettre les places. On n'a pas tous le même avis. Manger ensemble, on le verra aussi tout à l'heure, on le sait, ça génère du bruit. On aimerait être assis plutôt à côté d'un tel qu'un tel. Les enfants qu'il faut s'occuper, ou qui courent autour, qui font du bruit. Ah, on n'arrive pas à avoir une discussion. Après, bien sûr, il y a le rangement, le ménage. Il y a nos plats préparés, dans une cuisine chez nous qui n'est pas forcément pratique. Alors imaginez à Corinthe dans les maisons, bon. Personne n'aime le plat que vous avez préparé. Vous réalisez qu'à la fin de l'agape, il reste les trois quarts. Ou pire, les premiers se sont servis. Vous aviez vu ce repas bien préparé et vous arrivez, c'est votre moment et tout a été servi par les premiers qui se sont servis abondamment. Et finalement, vous rentrez tout à l'heure avec ce sentiment. En fait, c'était vraiment pas fraternel. Même si au départ, on parlait de bons sentiments, de se dire, bah ouais, on va vivre un petit ensemble. Et c'est du vécu, hein. Et donc, c'est naturel de se dire, bon, moi, maintenant, ouais, moi, les repas fraternels, je laisse ça de côté. Ça ramène trop. Non. Vous rajoutez ça, le partage de la scène. Ce repas du Seigneur. On l'a fait il y a une ou l'autre fois occasion et je sais que certains disaient « Oh, c'était pas assez cérémoniel. On l'avait fait autour des tables. » Je dis « Ouf, à Wittenheim, on le fait comme ça, à part du repas. Comme ça, tous les problèmes qu'on vient de voir là, tous ces trucs qui vont nous travailler l'esprit, on le laisse de côté, on va bien le faire, très gentiment, dans un culte, avec un certain ordre, après la prédication. On va peut-être chanter un chant, on va prier. » On va vous demander de vous lever dans un silence religieux. C'est un peu ça caricatural, hein, mais ça, c'est notre réponse à Wittenheim. On prend notre repas du Seigneur maintenant, et pas tout à l'heure, comme ça on est sûr de pas avoir les problèmes que les Corinthiens avaient. L'organisation l'est rodée. Merci Chantal et André qui l'ont préparé. C'est en place. Il y a quelqu'un qui préside. La question du rangement, c'est pas toujours ça, mais en tout cas, aucun risque de débordement de ce côté-là. Ouf. Merci Paul pour ses encouragements. Mais en réfléchissant, je me suis dit, mais est-ce qu'on n'est parfois pas tombé dans une routine? Parce que il y a peut-être pas du désordre, mais peut-être qu'on banalise. Dimanche après dimanche, on le fait régulièrement. Et Paul, au point peut-être d'oublier son sens profond, mais Paul, il nous dit, c'est un moment ensemble pour honorer le Seigneur. On est ensemble. C'est pas juste moi. C'est pas juste moi et mon petit pain. C'est ensemble. C'est ensemble, le repas du Seigneur. Et j'aime beaucoup parce que Paul, il fait le contraste. C'est le repas du Seigneur, et si vous avez faim, votre propre repas là, votre propre repas, mangez-le chez vous. Donc il fait une distinction. On n'est pas en train de célébrer notre propre repas. C'est ensemble. C'est ensemble. Pour nous, c'est évident, mais il est bon de se le rappeler. On le prend avec Dieu, ensemble, avec les autres autour de moi. C'est mon église. Je me reconnais avec des frères et des sœurs. Celui qui est à droite et à ma gauche, c'est des frères et des sœurs. On se connaît. On a un amour, on a une passion pour Christ ensemble. Si je résume ce petit passage-là, lorsque l'Église se rassemble, c'est pour honorer Dieu, uni, dans la communion fraternelle. Et on montre notre reconnaissance pour son œuvre. C'est un peu comme, et je laisserai cette image, c'est un peu comme si vous aimez le sport, avant un début de match, l'équipe se réunit, s'encourage. Et ils se rappellent pourquoi ils jouent ensemble. Ils se rappellent pourquoi ils sont ensemble. Ils sont unis autour d'un même objectif. Et c'est ce qu'on doit. Ce matin, en se retrouvant, c'est pas juste parce que moi, je viens pour être nourri par Dieu. C'est parce qu'on a envie d'être ensemble. Et on veut honorer ensemble Dieu. On veut le mettre à l'honneur. Et on veut se rappeler ensemble de ce qu'il a fait. On se rassemble pour célébrer ensemble. Pour honorer Dieu ensemble. Alors, quelle est la réponse de Paul à ce désordre? Et c'est là qu'il parle dans la partie centrale de ce qu'on lit, souvent, régulièrement en tout cas, quand on prend ce repas du Seigneur. Ce moment où l'Église est appelée à partager la scène, à rompre le pain, le jus de la vigne, nous sommes rassemblés pour nous rappeler l'Évangile. On est ici pour nous rappeler l'Évangile. N'oubliez pas le sens de ce repas, nous dit Paul. On commémore la mort de Christ. Et Paul cite quelques paroles de Jésus. D'ailleurs, qu'on retrouve dans plusieurs des évangiles. Cet acte de la coupe et du pain, en fait, on se rappelle ce que Jésus nous a laissé. Je vais mettre ça là. On se rappelle ce que Jésus a dit. C'est un acte qui rappelle la mort de Jésus et ce que cela signifie. Une nouvelle alliance nous relie à Christ. Vous avez peut-être déjà été invité à un anniversaire. En tout cas, imaginez, on organise une grande fête pour un ami très cher. Tout est mis en place. Pareil que pour un repas, hein. Déco, gâteau, jeu, invité. Et puis tout au fil de la soirée, vous réalisez qu'en fait, les divertissements, les conversations, les cadeaux, font passer à côté du sens de l'événement. On est là pour une personne qui fête son anniversaire. C'est la personne qui devrait recevoir l'hommage, elle est ignorée. Personne ne lui prend le temps de lui exprimer son amour, sa reconnaissance. En fait, le sens de cette fête est perdu au travers tout le décorum, de tout ce qu'on met en place. On fait plein de choses et en fait, on a oublié la simplicité. C'est ce que Paul est en train de dire ça. Mais en fait, on est rassemblés pour nous rappeler, de partager ce repas du Seigneur et pour ce qu'il a fait, tout simplement. On prend ce pain et ce jus de raisin en souvenir de Jésus et de son œuvre. C'est Jésus qui nous le demande. C'est pas une invention de Paul, c'est Jésus qui nous le demande. C'est un signe d'obéissance. On est en communion, mes amis, avec Christ. On est en communion avec Christ et c'est pour cela qu'on veut se le rappeler par ce corps brisé, ce sang versé. Qu'est-ce que Jésus a acquis pour nous ? Le pardon. La réconciliation, on l'a entendu, on a été adopté, on est ses enfants, il nous a élus, je suis en lui caché. Il y a plein de chants qu'on a. Il m'a défait de tous mes liens, de toutes mes addictions, il m'a brisé les liens du péché et de toutes les bénédictions que vous pourriez citer en Jésus-Christ. C'est ça qu'on se rappelle quand on est ensemble. Quelques pages, je dirais quelques mots avant, Paul il a déjà dit cela, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain. C'est ça l'idée. On est en communion avec Christ et avec son œuvre. Nous nous en souvenons. Nous goûtons, nous expérimentons ce qu'on a vécu, ce que Jésus a acquis pour nous. On est là, ensemble, rassemblés pour nous rappeler dimanche après dimanche, on pourrait le faire, et peut-être à chaque fois qu'on se rassemble, du comment et du pourquoi il est mort. En fait, pour nous, chrétiens, tout dépend de sa mort. Tout dépend de sa mort. Tout dépend de lui. Et le texte nous parle de nous, de vous. C'est pas juste individuel. C'est cela qui est crucial. C'est un acte d'église. On n'est pas chacun dans son coin. On est unis à l'œuvre de Christ. Et oui, on est reconnaissant. Oui, on est reconnaissant de cette œuvre. Oui, on est unis. Oui, on veut communier les uns avec les autres. Et ce repas devrait exprimer cela. Sa mort a enlevé toutes les barrières entre nous. Un seul pain, nous formons un seul corps dans ce texte. Christ rassemble un peuple nouveau jusqu'aux extrémités du monde. C'est le cœur du message de l'espérance de Jésus-Christ. En fait, Dieu nous a réconciliés. On est sur le même point d'égalité avec... On a tous besoin de Christ. Et c'est ce qu'on retrouve tout au long de la lettre de 1 Corinthiens. Paul, arrête pas de dire, vous vous chipotez, vous vous êtes en train de faire des différences, alors que vous devriez avoir votre regard sur Christ. Plus de riches, on l'évoquait hein, les semaines passées, plus de riches, plus de pauvres, plus de grecs, plus de juifs, plus de romains, mais un peuple nouveau, uni autour de Christ. Toutes les barrières tombent. C'est ça qu'on doit s'encourager. Alors que peut-être, dans nos cœurs, il y a peut-être la recherche de la division et de la querelle. C'est ça la bonne nouvelle. Simplement pour illustrer, hein, Éphésiens, les païens ont un même héritage, forment un même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ. Alors pourquoi vous divisez? Pourquoi vous cherchez querelle? Pourquoi vous ne faites pas les choses ensemble? C'est ça qu'on est appelé à faire quand on est ensemble. On est appelé à se rappeler cela. Et je trouve que c'est beau d'avoir des témoignages, des exhortations qui nous rappellent l'essentiel. On est appelé à se le prêcher. Je suis appelé par la parole à nous le dire. On est appelé à le chanter. On le chante. On l'est appelé à l'illustrer par des témoignages, par des prophéties, par des exhortations. On est appelé à le faire par nos prières. On se dit quoi? On se dit cette bonne nouvelle de l'Évangile. Parce que il y a plein de choses qui sont pas glorieuses. On a besoin de l'Évangile. Ne nous contentons pas de dire que oui, on est réconcilié avec Dieu, mais montre-nous combien on est réconcilié aussi les uns avec les autres. En nous joignant à une assemblée, en reconnaissant, oui, j'ai besoin. Et je trouve que c'est beau parce que ça s'est ressorti dans les quatre témoignages de ce matin. Leur désir de se dire, mais en fait, notre foi, on veut la vivre avec d'autres. Et on se reconnaît ici comme des frères et des sœurs qui proclamons Christ. Aidons-nous mutuellement à devenir de plus en plus semblables à Christ. On le montre par notre accueil, par notre hospitalité. On le montre en prenant soin des autres. On le montre en confessant nos erreurs, nos péchés les uns aux autres. On le montre en nous pardonnant mutuellement. On le montre en mettant, ce qu'on vient d'entendre depuis plusieurs dimanches, de côté nos préférences personnelles pour relever et considérer les intérêts de l'autre avant les siens. Voilà comment on le montre, c'est l'Évangile. Nous le montrons en grandissant ensemble dans la parole et dans la découverte de cette parole. On le montre en joie, en nous rejoignant une église et en affirmant nous engager. La seule chose que nous avons en commun, c'est l'amour que Christ a eu envers nous. Et c'est une belle chose. Et c'est une belle chose. La seule chose qu'on a en commun, c'est Jésus-Christ. Et c'est une belle chose, mes amis. Et on est rassemblés pour nous rappeler l'Évangile, pour rompre et manger le pain versé. C'est des choses qu'on va goûter, c'est des choses qui vont toucher notre cœur. C'est pas juste un rappel et on doit pas oublier le sens. C'est une alliance qu'il a faite pour nous. Merci Eva, tout à l'heure t'as parlé de bagues. C'est mon illustration aussi. Un mariage, on a été à plusieurs mariages l'année passée. On a été récemment, mais en fait quand on est là, l'échange des vœux, un engagement réciproque, souvent on le scelle, en tout cas en Occident, en France, avec une bague. C'est une promesse d'aimer mon épouse, de la chérir, de prendre soin, de subvenir à ses besoins. Quand tu la vois au doigt, tu sais que voilà, souviens-toi, mon engagement. Et Jésus nous donne ces signes pour nous souvenir de son alliance envers nous, de ce pain qui a été rompu, de ce sang qui a été versé. Ce sont les signes de sa promesse. Voilà mon engagement. et on est invité à le faire, à le répéter, autant que possible, pas systématiquement non plus, mais en tout cas ce rituel est là pour nous souvenir de ce qui nous relie. On était perdus. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, on est en train de transposer quelque chose qu'on a vécu. Les témoignages ce matin l'ont été dit, on a vécu des choses avant, il y a longtemps, enfin il y a quelques années. Et aujourd'hui, on est encore réjouis. En fait, c'est ça la Sainte Cène, c'est de se réjouir de quelque chose que Dieu a fait dans notre cœur il y a quelques années. On est en train de transposer le passé au présent. On est en train de transposer le passé. C'est quelque chose que je suis en train de vivre, que je suis en train de goûter. Je déclare, oui, Christ m'a libéré de mon péché. Oui, c'est mon péché qui a cloué Christ à la croix. Il n'y a plus de place aux choses. C'est vrai et c'est vrai pour moi. Quand je prends ça, je suis en train de dire ce qui s'est passé là. C'est vrai et c'est vrai pour moi. C'est Jésus, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur. On le voit aussi dans ce texte au verset 26, c'est pas juste inscrit dans le passé, c'est écrit dans le futur aussi. Le futur est devant nous. Mes yeux portent aussi sur notre espérance qui est devant nous, acquise. Et c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Un jour, il reviendra. On anticipe, on attend son retour. On se reconnaît comme des hommes et des femmes qui ont un jour été touchés par Christ. Et on veut se l'appliquer. Mais on est aussi ensemble en marche parce qu'on réalise que c'est pas la fin, que c'est que le début de ce qui nous attend. C'est devant nous. C'est un moment privilégié de se rappeler ça. Ensemble, de se souvenir de ce que Christ a fait. Et cela devrait nous encourager. En fait, c'est comme une famille qui se retrouve autour d'un repas et qui se rappelle les bons moments vécus dans l'année. Les événements marquants. Et c'est ce qu'on est en train de proclamer. Quand on partage la scène, on rappelle les événements marquants de notre vie. Du jour où il nous a libérés, du jour où il nous a montré que tel domaine de notre vie devait être réglé, le jour où il nous a montré ça, le jour où on a dû demander pardon à tel frère, le jour où nous attendons ensemble son retour. Et ce qui est terrible, on est rassemblés pour nous rappeler l'évangile, mais ce qui est terrible dans l'église de Corinthe, c'est qu'ils ont oublié. Ils ont oublié cette libération, ils ont oublié cette délivrance, ils ont oublié les bénédictions qu'on goûte en Christ, et ils ont eu une occasion d'attirer le jugement de Dieu. C'est la dernière portion de notre texte, hein. Alors que la scène nous rappelle l'évangile, ça nous rappelle aussi les exigences, en fait, de l'évangile, et on est rassemblés aussi pour nous examiner. On ne doit pas oublier devant qui on se présente. C'est ce que Paul dit depuis plusieurs passages, il dit, mais on est là pour honorer Dieu, pour rendre gloire à Dieu, pour montrer qu'il est saint, le seul. Vous êtes sans doute déjà tous partis en voyage. Alors suivant votre degré de préparation, vous allez vérifier plusieurs fois que vous n'avez pas oublié votre passeport, votre valise, vos billets, et puis tout ce qu'il vous faut. En fait, de la même manière, lorsqu'on se retrouve et lorsqu'on partage ce repas, on devrait s'examiner et se dire « Est-ce que je suis prêt ? Est-ce que je suis prêt à vivre ce moment-là ? Est-ce que mon cœur est prêt à honorer Dieu lorsqu'on est rassemblés ?» En fait, en étant ensemble, comme on le peut le faire ce matin, on doit être prêt à se laisser examiner par Dieu. Et c'est ce que je dis déjà depuis plusieurs dimanches. Est-ce qu'on est là pour écouter Dieu ? Est-ce qu'on est là pour écouter Christ? Est-ce qu'on est là pour se dire, Dieu, t'es en train de nous parler par ta parole et t'as des choses à m'apprendre, t'as des choses à corriger, t'as des choses à me réjouir, t'as des choses à me montrer. Est-ce qu'on est là dans cette attitude-là? Est-ce qu'on laisse le Seigneur l'occasion de travailler notre cœur? Les Corinthiens se sont laissés rendus coupables de négligence et ils ont attiré un jugement de Dieu. C'est ce que dit le texte. Vous êtes coupables envers le corps et le sang du Christ. Et au point qu'au verset 30, hein, c'est le drame, c'est pourquoi il y a des malades et la mort vous a frappé. Dieu est intervenu. Ça dérange un peu. Dieu saint. Dieu glorieux, Dieu tout puissant. Un Dieu ici qui montre, et Paul le montre pour cette église, à corriger, à sanctionner. Les divisions qui fracturaient cette église tournaient le sens de ce qu'ils étaient en train de vivre au ridicule. Avec l'évangile, on est censé rappeler cette beauté-là. Oui, Dieu châtie, parfois Dieu corrige pour qu'ils aillent pas trop loin ou plus loin. Michel nous l'avait déjà partagé au chapitre 10, hein, où avec l'illustration de ce peuple d'Israël qui s'était écarté de Dieu, qui avait méprisé Dieu et qui, voilà, alors qu'ils avaient été libérés, ils ont subi une conséquence. Dieu a corrigé, c'est le sens du texte, Dieu a corrigé. Les Corinthiens, c'est du sérieux. Le repas du Seigneur, notre moment convivial qu'on prend avec les autres, est là pour nous rappeler de toutes les bénédictions qu'on a en Dieu. C'est un signe. Le repas du Seigneur est là pour nous rappeler le privilège de jouir toutes les bénédictions de Dieu, de toute sa présence, de sa grâce, de son pardon. Christ qui s'est donné pour nous, il nous a tout pardonné. Il n'y a plus de condamnation. Rappelez-vous, Jésus, il a dit, j'ai vivement désiré manger ce repas avec vous. Il y a vraiment, c'est le désir de Dieu. Il veut pas qu'on se prive de cela. J'ai pris cela parce que je vais souffrir pour vous. C'est un moment intime, c'est un moment de joie, de communion. Et oui, on veut se réjouir de l'œuvre de Dieu. Oui, le repas du Seigneur qu'on va prendre doit être une occasion de nous réjouir, mais aussi de nous examiner. Alors, c'est pas l'idée de nous priver, hein, de se dire, bon, il n'y a pas des choses en règle. Non, c'est l'idée de nous examiner. Est-ce qu'on est en règle les uns avec les autres? Est-ce que je renouvelle mon engagement? Est-ce que je bafoue dans mon attitude envers mes frères et sœurs dans l'Église? Est-ce que je bafoue ce que le Seigneur a fait? Si vous célébrez la scène, et c'est ce que les Corinthiens font, d'une manière qui exclut ou qui humilie les autres, c'est comme si vous disiez que Jésus est mort que pour vous et pas pour eux. En fait, en prenant ce repas, on est en train de s'identifier ensemble. Je prends mon repas avec des frères et des sœurs, des gens qui ont été réconciliés avec Dieu, des gens avec qui je veux avancer. Ça écho à Jean, hein, Jean qui nous dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est ça en fait, c'est ça que Paul est en train de dire. Vous prenez quelque chose et vous démontrez dans votre attitude que vous n'aimez pas les autres qui sont autour de vous. Être lié à Christ, c'est être lié aux autres. Alors on n'est pas en train de dire que on doit ne pas prendre la scène parce que on se dit bon, non, nul n'est arrivé. Mais il y a de la place pour discerner et confesser qu'on a absolument besoin de Christ. Et je crois qu'en prenant ce vin, on se dit, en fait, c'est la seule chose que j'ai besoin. Je suis complètement indigne de m'approcher de Dieu, mais je reconnais que la seule chose qui me permet de m'approcher, c'est ce qu'il a fait. Donc Paul nous encourage à nous examiner et à nous assurer que le lien avec lui et avec les uns les autres n'est pas rompu. La scène, elle est là pour nous encourager, pour nous édifier, pour nous aider à grandir, et pour nous aider à nous émerveiller toujours à nouveau de Christ. Alors qu'est-ce que c'est la scène? Je conclue, hein, ça c'est une petite citation. La scène, c'est ce repas qui est en train de partager, on le voit dans ce texte, c'est un acte d'église qui consiste à communier avec Christ et les uns avec les autres, et à commémorer la mort de Jésus en partageant le pain et le vin. C'est aussi un acte du croyant qui consiste à recevoir les bienfaits de Christ et à renouveler son engagement envers Christ et son peuple. Elle nous rassemble en un seul corps. Elle nous distingue du monde. Et je vais simplement conclure très brièvement en montrant qu'avec ce texte, on voit que Paul est en train de montrer dans six directions différentes. Ce qu'il est en train de vivre, ce qu'on est en train de vivre, qu'on va vivre là, est tellement riche et on va le vivre dans six directions. On s'assemble, bien sûr, pour être unis dans l'évangile, ben, on regarde en haut, parce qu'on est en relation avec Dieu. C'est un temps avec Dieu. On est invité parce qu'on est un temps avec Dieu. C'est par la scène qu'on, nos relations avec lui ont été réalignées, on pourrait dire. Donc, soyons reconnaissants. La scène, c'est aussi regarder autour, parce qu'on est en communion avec les autres qui prêchent le même évangile, le même message, le même salut. C'est pas un moment uniquement individuel, c'est surtout et principalement communautaire, ensemble. Nous sommes appelés ensemble à témoigner de notre unité en Christ et de nous réjouir ensemble, membres d'un même corps. C'est aussi regarder en arrière, je l'ai dit tout à l'heure, on se rappelle de ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est quelque chose de passé. Celui qui prend la scène, c'est celui qui reconnaît, ouais, un jour, j'ai été touché par ce message. C'est aussi regarder en avant. Parce qu'il y a une espérance, ce retour. Ce repas, il est dit, hein, dans ce texte, c'est un acte, on attend. On attend son retour. On attend de le partager avec lui dans les cieux. Il y a cette espérance vivante. Cinquièmement, on se regarde aussi vers l'intérieur. On est là aussi pour nous examiner ce que Dieu a quelque chose à nous dire. C'est un grand travail sur soi. De réfléchir à notre obéissance. De laisser le Seigneur travailler notre cœur. De vivre le pardon. C'est aussi de regarder vers l'extérieur. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre ensemble, c'est un témoignage aussi au monde. C'est une occasion de témoignage, de célébration. Parce qu'en fait, en nous levant tout à l'heure, ben on est en train de proclamer qu'on s'identifie à Christ. Et que c'est ce qui fait notre différence avec ceux qui ne s'identifient pas à Christ aussi. Et on veut proclamer cette bonne nouvelle qui est pour tout le monde. Et qu'on a, ne vous privez pas de cela. Il n'y a rien de plus complet. Il n'y a rien de plus complet, rien de plus fort que de partager ensemble cette espérance qui nous unit autour de la Sainte Cène.